On se voit à la radio.
Le podcast d'Impulseur.
David Rival.
Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Impulseur. Troisième et dernier épisode d'une série d'interviews de Philippe Pierre à propos de l'intégration en entreprise. Philippe est intervenant au sein des réseaux de formation de managers et dirigeants Germe et APM. Et après nous avoir parlé d'attractivité des talents puis de recrutement, voici venu le temps de la fidélisation de votre équipe.
On se voit à la radio.
Le podcast d'Impulseur.
Bonjour Philippe.
Bonjour David.
C'est le troisième épisode avec toi. Après attirer les talents, recruter et intégrer, aujourd'hui nous parlons de fidéliser les talents. Une vaste question là encore.
Ouais, c'est une belle question parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont tendance, tu vois, à voter avec leurs pieds. Ça ne me plaît pas, je
pars. Voter avec leurs pieds.
Je vote avec mes pieds. Et donc cette thématique, elle est vraiment de profonde actualité. Comment on peut avoir le meilleur de quelqu'un qui, a priori, est de passage quand même, quoi.
Alors, tu défends la coexistence des modèles pour fidéliser les talents. En clair, tu ne crois pas au grand soir en termes de management des talents.
Non. Alors, un talent, on est d'accord, c'est quelqu'un de différent. C'est quelqu'un d'excellent, contributeur et généreux. Et en fait, il n'y a pas un seul modèle d'organisation ou un seul type de culture d'entreprise qui va faire qu'on va le découvrir et on va, comme ça, réussir à intégrer ce talent dans le bon modèle. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que nous vivons un temps où il y a au moins 2 ou 3 ou 4 modèles d'organisation qui renvoient à des formes de motivation et que dans une PME innovante, dans une entreprise ou une administration de plus grande taille, on doit faire se rassembler, coexister les modèles. Un peu, tu vois, David, comme des calques qu'on superpose. Et quand on les superpose bien, en fait, ce qui émerge, c'est la personne. Partir de la personne pour construire l'équipe et idéalement l'organisation.
Oui, mais partir de la personne, encore faut-il avoir effectué ce travail d'exploration. Et pour le coup, ça peut être insécurisant parce qu'on plonge dans l'inconnu.
Oui, on plonge dans l'inconnu et on va accepter l'idée que dans notre organisation, il y a différentes formes d'inconnu. Je t'en donne un exemple. Moi, quand j'étais plus jeune, je crois que j'ai grandi et j'ai progressé dans un modèle que j'appelle de la loyauté, hiérarchique, verticale, pyramidale. Et quand j'étais DRH, je t'en fais la confidence, j'essaye de changer depuis, mais à 18h30, 19h, j'avais parfois tendance à dire à mes équipes, tiens, vous prenez votre après-midi en les voyant partir. C'est te dire si j'étais vraiment dans le viseur du chef. Eh bien, faire coexister les modèles, c'est accepter l'idée que le talent, il n'est pas forcément dans le viseur, il est sur le radar, et qu'à 17h30, il peut te dire, moi j'ai une autre vie, monsieur, à vivre, ou Philippe, et je veux la vivre pleinement. Et ça, accepter l'idée du modèle du « et » peut être aussi très intéressant. Et il faut accepter cette part d'inconnu dont tu parles, David.
Ça, c'était le modèle loyauté.
La loyauté, tu vois, hiérarchie pyramidale. On rentre dans l'organisation, et si ça se passe bien, on échange une très forte implication professionnel contre une sécurité de destin. L'employeur est normalement capable de te protéger quand tu vieilliras et deviendras peut-être plus fragile. Alors tu vois ce modèle, on peut dire que c'est un modèle de départ quoi, du capitalisme historique. Et puis tout d'un coup, tu accueilles dans ton bureau quelqu'un qui, après l'entretien de recrutement, te dit avec bienveillance « Vous savez, moi je ne resterai pas chez vous très longtemps ». Et là, on passe du modèle de la loyauté au modèle de l'employabilité. On passe en quelque sorte du chef au manager, on passe de la confiance aveugle à une signature de contrat permanent. Et ben aujourd'hui, dans un hôpital, une association humanitaire, un grand festival, ces modèles existent et coexistent. Et donc, partir de l'inconnu et de la personne, c'est s'intéresser à ce qui motive les gens. Et comme ça, moi, dans mes travaux, tu vois, je définis 5 modèles d'organisation.
Alors, montre-nous ces 5 modèles, loyauté, employabilité.
Le troisième, c'est on va se tourner notre regard vers l'univers de l'ingénierie, de l'audit, de l'expertise comptable, de l'architecture, de l'avocat. Tu vois, c'est le monde du maniement des idées. C'est le fait d'être identifié comme un talent dans un réseau professionnel qui fait ta carrière. Et dans ce type d'organisation, si ça se passe bien, on est salarié, entrepreneur et actionnaire. Et donc, c'est un modèle qu'un de mes collègues appelle la diva d'opéra. C'est un modèle qui fait la part belle à sa réputation sur le champ du travail. Et donc, ta carrière, elle est liée aux chasseurs de têtes et qui peuvent t'accompagner, aux réseaux d'anciens aussi, tu vois. On voit un exemple concret, hein. On voit l'émergence depuis quelques années d'un site comme Glassdoor, qui va être une sorte de TripAdvisor des entreprises, dans lequel les anciens qui ont travaillé chez toi vont donner leur avis sur la manière dont on a pu être traité chez toi, la qualité du climat social, la proximité avec le dirigeant, même les fourchettes de rémunération. Mon quatrième modèle, c'est l'entreprise plateforme. Bah écoute, on n'en aurait pas parlé ensemble il y a 10 ans, hein. Uber, TripAdvisor, Airbnb, c'est un logiciel de mise en relation et c'est une succession de contrats courts, pour le dire de façon neutre. Et puis mon cinquième modèle, je l'ai appelé avec mes collègues, mes amis, l'univers des slashers, l'archipel. Et on voit monter en puissance dans l'économie, là, depuis quelques années, cette idée qu'un slasher, c'est une personne qui va s'équilibrer en vivant diverses activités. Et pas simplement, d'ailleurs, tu vois, rémunératrice. Et ça fait aussi partie, je le sais, David, de ce que tu dis, toi.
Mais oui, parce que je côtoie beaucoup de responsables d'associations. Est-ce qu'un responsable d'association, je reviens des vieilles charrues, par exemple, où j'observe des organisateurs qui, pour certains, consacrent plus de la moitié de leurs vacances aux vieilles charrues en tant que bénévoles. Est-ce que ce sont des slasheurs aussi?
Ah, pour moi, oui. Ce sont des personnes qui vont faire des ponts, des liens et des correspondances entre des mondes. Et ces personnes souhaitent que ces mondes soient différents les uns des autres. On a un expert comptable qui est un peu sculpteur et qui en même temps va être dans la distribution de repas parce que pour lui, c'est important pour continuer de donner un sens à sa vie. Et donc, c'est exactement ça. Et je pense que dans un festival comme les Vieilles Charrues, tu dois avoir un très grand nombre de personnes qui veulent vivre intensément des expériences avec des personnes autour d'elles qui sont riches et pouvoir ensuite vivre tout autre chose ailleurs.
Exactement.
Ça signe un parcours de vie. Faire des ponts, des liens, des correspondances entre les mondes.
Je me souviens de femmes qui étaient dans le travail social et puis qui chaque année se retrouvaient dans un stand de restauration aux Vieilles Charrues et on leur avait posé la question de savoir quel était le lien entre l'un et l'autre. Et elles avaient répondu, bah, il n'y a absolument aucun lien. Et puis, à la question de relance, est-ce que vous en êtes bien sûr? Bah oui, finalement, le lien, c'est moi, c'est mon être, c'est mon besoin d'équilibre.
Donc ouais, c'est ça.
Est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui, l'évolution du monde du travail, Philippe? C'est de permettre à chacun de s'équilibrer et d'aller explorer les multiples univers qui lui tiennent à cœur.
Ouais, je crois que oui, on est dans une belle perspective idéale, mais je crois que oui. À condition que la personne délivre du résultat quand elle est là avec nous. Hein, c'est le prérequis pour moi. C'est la condition de l'équité. On accepte de la traiter différemment parce qu'elle délivre du résultat qui sera utile pour tous. Hein, c'est un point qui me semble très important. Mais c'est la montée en puissance d'une figure, celle de l'avatar. Là, j'emprunte, tu vois, les termes de Michel Serres, le philosophe, dans son livre « Petite poussette ». Tout d'un coup, on a des personnes qui cultivent volontairement des personnages très différents pour, d'une certaine manière, signer le caractère unique, singulier de leur trajectoire. Et on va en avoir de plus en plus de ces personnes qui bénéficient du digital, du numérique, dans le creux de la main, comme Petite Poussette, qui vont densifier des réseaux en archipel de connaissances pour pouvoir trouver des amis loin de ces terres. On est en train de passer de la pyramide au réseau, du réseau à l'archipel, sans que ça soit réellement un passage où les modèles se succèdent, mais c'est beaucoup plus une superposition de calques que l'on doit saisir.
Nous sommes composés d'autant d'éléments que nous sommes en relation avec des contextes, avec des personnes, avec des situations. Et c'est peut-être ça qui enrichit notre être, l'unité de notre être.
Je crois. Et les compétences que l'on va cultiver au moment des Vieilles Charrues, dans un contexte incroyable de nombre de personnes, tu m'évoquais plus de 70 000 personnes sur la face à la grande scène. Eh bien, dans ce contexte singulier d'urgence, on développe des compétences utiles qui seront utilisées ailleurs en un autre endroit avec d'autres collègues. C'est un peu, tu vois, l'imaginaire de la petite bande de jazz dans laquelle chacun s'autorise un peu d'improviser à un moment donné. On est individuel dans le collectif. Et ça, c'est une figure que j'appelle avec d'autres la figure de la petite tribu. Et cette complémentaire de nos schémas traditionnels, soit la grande pyramide hiérarchique, soit le réseau d'intérêts un peu sec et instrumental. La tribu, il y a une dimension affective qui est très intéressante aussi.
Et non seulement on développe des compétences, tu le disais, avec ses autres activités, mais en plus on développe des émotions
oui.
et des hormones de bien-être, hein, les fameuses dopamine, endorphine, ocytocine.
Ouais, c'est juste. Et on est d'autant plus heureux qu'on sait qu'on est là pour quelques heures parfois. Et donc, on veut le vivre pleinement. Et je crois, alors là, je ne suis pas spécialiste, mais je crois savoir que ça fait beaucoup de bien. Et que oui. C'est un instant de ressourcement pour pouvoir être plus efficace ailleurs.
Donc, ça veut dire que pour fidéliser, mais aussi pour recruter et même pour attirer, pour boucler ces trois ouais. épisodes, il peut être intéressant, c'est ton message, Philippe, je l'entends, de montrer sa capacité d'ouverture pour les autres activités que seulement celle pour laquelle on recrute des personnes.
Ouais, complètement. Accorder de l'importance à nos anciens, ceux qui sont partis en retraite, avec qui on continue d'avoir un lien qui est fort, des personnes qui ont bien travaillé chez nous, mais qui ont choisi de travailler ailleurs, les considérer comme des ambassadeurs. Tu as parfaitement raison. Et ça, c'est une belle figure où on change en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. C'est la figure de l'archipel.
Merci beaucoup Philippe, c'était un vrai plaisir de te recevoir dans ce podcast pour ces trois épisodes.
Merci David.
On te retrouve
accueil.
Où et comment ?
Eh bien, au cours de formations, de conférences que je donne très fréquemment, et puis un site internet sur lequel tu peux retrouver notamment une soixantaine de vidéos depuis une quinzaine d'années, www.philippepierre.com, tout simplement.
philippepierre.com, merci beaucoup Philippe.
Merci David.
Au plaisir. Et à bientôt en festival.
Avec plaisir.
Retrouvez d'autres sons et vidéos
sur impulseur.com
et sur la chaîne YouTube Impulseur.